France Culture, il est 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Comme toujours, vos réactions sont attendues sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Faut-il poursuivre les expériences sur les animaux ? En janvier 2015, l'Assemblée nationale votait un amendement accordant le statut d'être vivant doué de sensibilité aux animaux domestiques. Auparavant et depuis 1804, l'animal était considéré comme un bien meuble. Ce changement de statut reflète une forte évolution des relations entre les hommes et les animaux. Certaines traditions comme la corrida sont de plus en plus combattues. En Chine, le festival de la viande de chien, qui se tiendra le 20 juin dans la ville de Yulin et au cours duquel 10 000 chiens sont massacrés pour être consommés, ce festival est combattu depuis 2014 par des militants de la cause animale ainsi que par les autorités locales. Récemment, l'association L214 a provoqué un choc émotionnel important en publiant des vidéos tournées dans des abattoirs et dans des élevages intensifs de poules pondeuses. Et hier encore, ce sont les conditions d'élevage des cailles en Italie, en Grèce, au Portugal et en France qui étaient dénoncées par l'association CIWF. Pas moins de 140 millions de cailles sont élevées en Europe. Cette compassion à l'égard des conditions de vie des animaux touche également un domaine particulièrement sensible et délicat à traiter, l'expérimentation animale pratiquée par la recherche. Cette pratique concerne la médecine, mais également des laboratoires industriels comme ceux de la cosmétique. Et le gouvernement fédéral australien vient d'ailleurs de s'engager à y mettre un terme sur son territoire. En médecine, le modèle animal reste considéré comme nécessaire pour procéder à des tests sur l'homme, en particulier pour le développement de nouveaux médicaments. Une enquête menée par la philosophe Audrey Jougla estime que plus de 11 millions d'animaux sont utilisés de cette façon chaque année en Europe. L'expérimentation animale pose de façon aiguë la question de la façon dont les animaux sont considérés par l'homme. Faut-il les traiter comme des êtres inférieurs ? Que l'on a le droit de faire souffrir dès lors que la santé humaine est en jeu? Faut-il les reconnaître comme des êtres vivants à part entière, dotés d'une sensibilité et ressentant la douleur? Dans ce cas, la recherche doit-elle se passer de leur utilisation comme animaux de laboratoire? Quelles seraient les conséquences d'une telle décision sur les avancées de la médecine en particulier? Existe-t-il des substituts à l'expérimentation animale? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Science Publique, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Thierry Galli, directeur de recherche à l'INSERM, Audrey Jougla, journaliste et auteur de Profession animale de laboratoire, publié aux éditions Autrement en 2015, André Ménage, vétérinaire et zoologiste, membre du comité Stop Vivisection et directeur de l'association Antidote Europe, et enfin Brigitte Rau, vétérinaire et responsable du bureau de l'expérimentation animale de l'INSERM. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions sur le site de Science Publique, tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Audrey Jougla, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi et comment êtes-vous arrivé à vous plonger dans l'univers des laboratoires ? Votre livre est le récit d'une immersion, d'une espèce de plongée à l'intérieur de cet univers. Et vous l'avez fait pour constater comment les animaux sont traités dans les laboratoires. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure ?
On le fait pas par plaisir, effectivement. En fait, avant j'étais militante et je me suis rendu compte que quand on posait des questions aux associations, il y avait pas forcément de réponse sur l'actualité ou sur la véracité. Enfin, moi-même je me questionnais beaucoup en fait sur l'actualité en fait des photos qu'on pouvait voir véhiculées par les militants, etc. Et du coup, ça m'avait interpellée et je me posais la question, notamment en France, parce que on voit jamais ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet, mais c'est toujours à l'étranger. Et du coup, je me posais la question, en France, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quel est le rapport par rapport à cette réalité-là qui est transmise par les associations ? Donc, c'est à la base, c'est ce constat-là et cette interrogation-là qui m'a poussée, du coup, à rentrer un peu dans ce milieu-là qui est très fermé.
Alors concrètement, vous avez pu visiter plusieurs laboratoires, combien ?
Oui, alors en fait, j'ai pu aller dans 4 laboratoires qui donc travaillent avec des travaillent puisque c'est le terme avec des animaux d'espèces très différentes. J'ai vu notamment des chats, des chiens, des primates, des rongeurs. Donc il faut savoir qu'il y a bien d'autres espèces évidemment qui sont utilisées pour les expériences.
Donc vous parlez de 11 à 12 millions d'animaux en Europe.
Oui, c'est les chiffres officiels de la Commission européenne, ça, qui sont donc pour tous les pays de l'Union européenne. Et en France, c'est à peu près 2 millions d'œufs par an.
2 millions d'œufs. On va revenir sur ce que vous avez pu découvrir plus précisément. Brigitte Roux, bonjour.
Bonjour.
Donc, il y a un dossier publié en mars 2016, donc il y a très peu de temps, par l'INSERM, sous le titre « Recherche animale, pourquoi est-elle encore essentielle ?». Ce dossier fait le point sur l'expérimentation animale. Et vous êtes cité dans ce dossier et vous déclarez « La prise de conscience du bien-être animal au sein des équipes de recherche a considérablement évolué ces dernières années ». Avant d'entrer dans le débat sur le caractère essentiel ou non de cette pratique, comment vous pourriez expliquer cette évolution ? Qu'est-ce qui a changé dans les laboratoires de votre point de vue ?
Ce qui a changé, effectivement, c'est, je crois, la prise en compte, de la sensibilité de l'animal, comme vous l'avez dit. Je tiens d'ailleurs à préciser que on a considéré que l'animal était un être sensible avant 2015, hein, puisque c'était déjà inclus dans le code rural avec la loi de 1976. Donc, et ça fait partie, je pense, d'un processus, d'une dynamique qui s'est accélérée ces dernières années. C'est vrai qu'on utilise depuis très longtemps l'animal. C'est vrai que dans certains cas, dans des conditions qui ont été, on peut le dire, cruelles. Et je crois que la société en général, les chercheurs également, ont pris conscience justement de la sensibilité de ces animaux. Et c'est également aussi en travaillant finalement, en étudiant cet animal, en étudiant le vivant, qu'ils ont pu mettre à jour que c'était des êtres dont il fallait prendre en considération cette sensibilité. Et ces dernières années, c'est vrai qu'on voit les choses vraiment s'accélérer de ce point de vue-là, avec, on y reviendra peut-être, beaucoup de mesures qui ont été mises en place d'un point de vue réglementaire et qui s'appliquent aujourd'hui. Donc le paysage a vraiment largement changé.
Très bien, on va effectivement revenir en particulier sur les conséquences d'une directive européenne, qu'il y a un encadrement de plus en plus précis de ce genre de pratique. Thierry Galli, bonjour.
Bonjour.
Donc, en arrière-plan de cette question de l'expérimentation animale, on trouve une question fondamentale qui est celle un peu de la supériorité de l'homme sur l'animal.
Oui, d'ailleurs c'est un peu dans ce cadre que vous avez fait votre introduction. Est-ce que l'homme a le droit ou pas le droit ? Et en fait, il me semble que ce qui est déjà intéressant, c'est que très certainement, il n'y a que l'espèce humaine qui puisse se poser cette question, ce qui déjà dénote une forme de supériorité d'une certaine manière, parce que je doute que les autres espèces se posent la question quand il s'agit de leur interaction avec leur environnement. Et donc évidemment, je pense que la question mérite réflexion. Et de manière évidente, les scientifiques sont très bien placés puisqu'ils questionnent le monde qui les entoure.
André Ménage, bonjour. Pour
bonjour.
Finir ce tour de table, votre association, donc Antidote Europe, se bat donc depuis plus de 10 ans pour une science que vous qualifiez de responsable. Et vous ne cessez de répéter, aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre espèce. Ce qui va à l'encontre du modèle animal qui va être au cœur de notre discussion.
Oui, alors je pense que ce n'est pas seulement Antidote Europe qui considère qu'aucune espèce animale n'est un modèle fiable biologique pour une autre. De plus en plus de chercheurs le constatent et le disent ouvertement aujourd'hui. Mais ce que je trouve, c'est que le débat sur l'expérimentation animale se fait plutôt, et s'est fait, sur le plan éthique. Et ce que Antidote Europe souhaite, c'est un débat scientifiques approfondis, donc des scientifiques pour et contre le modèle animal, la validité du modèle animal. Et nous, jusqu'à présent, je dirais que le débat scientifique est resté très superficiel.
Donc oui, vous voulez le déplacer donc sur le plan de ce questionnement. Est-ce que ça sert à quelque chose au niveau de la recherche d'utiliser des animaux pour faire des expériences, Brigitte Roux ?
Écoutez, je pense que quand on regarde un petit peu l'historique, quand on part de l'Antiquité jusqu'à maintenant, je pense qu'on a quand même largement progressé dans la compréhension du vivant, de l'animal, en physiologie, en santé, et c'est quelque part en utilisant l'animal. Donc, alors bien entendu, et on peut d'ailleurs souvent, enfin, faire référence à un grand nombre de prix Nobel en physiologie, en médecine, donc avec des modèles animaux très très différents. Donc, je crois que la question de savoir si l'animal a apporté quelque chose dans la connaissance du vivant, c'est indéniable.
C'est pas le seul objectif de la recherche, l'expérimentation animale. C'est pas uniquement de comprendre le vivant. Dans beaucoup de cas, il s'agit de tester des produits, par exemple, destinés à l'homme, et le faire avant sur l'animal. Dans ce cas-là, on ne fait pas de la recherche fondamentale sur le vivant, hein,
si ? La recherche, en fait, est un tout. Je crois qu'il ne faut pas, quand on parle d'expérimentation animale, il ne faut pas se focaliser non plus sur les essais qui peuvent être faits dans le développement de médicaments. La recherche, c'est la compréhension véritablement du vivant, après avec des applications qui vont être du coup bénéfiques et pour l'homme et pour l'animal aussi, qui en bénéficient bien entendu au retour. Donc je crois que c'est... C'est ça. Après, la question, on développera peut-être plus tard, et de savoir comment, enfin, je veux dire, dans quelles conditions, effectivement, et ça, c'est un deuxième point à discuter et qui est important.
Oui. Moi, ce qui me fascine dans la biologie, avec les connaissances qui se développent à l'heure actuelle, mais depuis, très certainement, au minimum, depuis Darwin, mais avec une accélération dans la période récente, on va dire, c'est, à contrario, l'extraordinaire conservation des mécanismes biologiques, de la levure au ver nématode, à la mouche drosophile, à la souris, à l'homme. Alors évidemment, on trouvera toujours des différences par rapport à ce plan fondamental, ces plans, ces mécanismes extraordinairement conservés qui font que la plupart du temps, quand quelque chose est inventé une fois dans l'évolution, elle va être réutilisée, elle peut évoluer, elle peut se modifier d'une espèce à l'autre, mais cette conservation, c'est quand même le paramètre le plus important quand on regarde le vivant. Si un jour on identifie des formes vivantes sur d'autres planètes ou dans d'autres univers, peut-être qu'on découvrira d'autres principes de base, mais cette conservation, elle est beaucoup plus importante que les différences. Après, quand on veut pointer des différences, à l'intérieur même de notre organisme, il y a énormément de différences. Nos cellules nerveuses sont différentes de nos cellules musculaires, etc. Donc ça, c'est une autre question. Je pense on va l'aborder, mais la différence entre la souris et l'homme, elle est certainement importante, mais la différence, si après on veut s'intéresser à des médicaments, au métabolisme, etc., entre des humains qui digèrent le lactose et d'autres qui ne le digèrent pas, elle est aussi très importante, et ainsi de suite.
Alors, on entend quand même circuler on voit circuler des chiffres qui, semble-t-il, montrent que les essais sur les animaux ne donnent pas forcément les résultats escomptés lorsqu'on teste les produits sur l'homme dans un deuxième temps. Donc ça, c'est toujours cette question de la validité du modèle animal, André Ménage.
Alors, 9 sur 10 médicaments qui ont passé les tests précliniques chez les animaux vont échouer au cours des essais cliniques chez l'homme. Donc, je ne connais pas d'autres secteurs industriels où on accepte un taux d'échec si haut. Mais je pense que l'essentiel, c'est à partir de l'année 2000, où on a décrypté le patrimoine génétique humain, nous sommes de plus en plus conscients que le fait que nous partageons presque les mêmes 23 000 gènes avec une souris et un chimpanzé, l'important, ce n'est pas la quantité de gènes que nous partageons, c'est ce que font ces gènes. Et si nous prenons le chimpanzé, donc le modèle animal le plus proche de l'homme, avec lequel nous partageons environ 98% de notre ADN, et pourtant le chimpanzé est immunisé contre le sida, l'hépatite, le paludisme, et si c'est notre meilleur modèle animal, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres animaux qui sont donc évolutionnairement plus éloignés de l'homme ?
Est-ce que, Audrey Jougla, vous voulez intervenir?
Je voulais juste réagir sur les chimpanzés. Il faut savoir notamment, et ça c'est quelque chose qui moi me perturbe beaucoup, parce qu'on dit tout le temps, enfin on a tendance à ramener l'expérimentation animale à un problème très souvent uniquement scientifique. Il faut savoir que les chimpanzés, donc c'est des grands singes, on n'a pas le droit de faire d'expérience sur eux selon la directive européenne. Or justement, si on accepte le postulat de l'expérimentation animale en disant que, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que l'homme est supérieur, il s'arroge le droit de faire subir les expériences aux animaux. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas justement, au contraire, toutes les expériences sur les grands singes, plutôt que de les exempter de l'expérimentation animale? Et ce que je voulais juste dire, c'est que, enfin, du coup, si on prend cet argument-là de la supériorité humaine et de la nécessité pour la science, comment se fait-il que dans la directive européenne, justement, il y ait l'insertion d'un problème qui est véritablement un problème moral, c'est-à-dire qu'on décide, le législateur décide d'exempter les grands singes pour leur capacité sociale, comportementale, cognitive. Ils sont exemptés, justement, des expériences, alors que on pourrait être tenté de dire justement faisons tout
sur
eux.
Vous voulez dire que le meilleur modèle finalement c'est celui dont on se prive.
Et là justement voilà. Donc
pour des raisons éthiques. Thierry Galli.
Oui, deux points en réponse. Alors je vais répondre d'abord au dernier. Parce que la question n'est pas simplement de comprendre l'homme. La question elle est aussi de comprendre le monde vivant. Et on peut vouloir comprendre la moule, l'huître ou le crabe, et on va pas utiliser le chimpanzé pour comprendre la moule, l'huître ou le crabe. Donc la démarche, et là aussi, il faut bien le comprendre par rapport à cette.
Là, vous exagérez un petit peu. C'était pas du tout la question.
Oui, mais je vais développer. On a parlé tout à l'heure d'essayer des produits pour faire des médicaments. Je pense que là, l'un des problèmes est du taux d'échec. Et je pense que le problème de fond, c'est la confusion entre ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant. C'est-à-dire que oui, un certain nombre d'étapes sont nécessaires pour faire tomber un certain nombre de principes, d'idées, de molécules. Mais c'est la même dans tous les champs scientifiques. C'est-à-dire que quand on veut envoyer une fusée, il y a certainement, quand on fait la mise au point d'un nouveau moteur, des taux d'échec qui peut-être dépassent même 9 sur 10. Quand on fait des réactions chimiques pour faire un nouveau composé ou pour essayer de fabriquer quelque chose qui n'a jamais été fait en science, comme pour tout, comme si vous apprenez à faire du tennis ou du foot ou n'importe quoi, il y a un taux d'échec, on cherche la solution, c'est le propre de l'homme. Et puis à un moment donné, on a ce succès. Ici, l'animal est une étape nécessaire et non suffisante pour pouvoir développer des médicaments. Et c'est une étape nécessaire pour comprendre. Donc, personne ne dit que c'est suffisant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a d'autres étapes. In fine, avec des essais chez l'homme, pour arriver, c'est un entonnoir. Et à la fin, oui, il y a un taux d'échec énorme. Mais personne ne sait faire mieux que ça et ne sait faire du 100%.
Audrey Jougla.
Oui, mais du coup, enfin, juste pour les chimpanzés, vous êtes d'accord que c'est bien le législateur qui inscrit un problème moral en fait dans la directive européenne. Mais, sinon, ils seraient pas exemptés.
Bien sûr, mais les scientifiques eux-mêmes s'amuseraient pas à faire l'intégralité de leur expérimentation chez le singe. Ça n'aurait absolument aucun sens. C'est déjà parce que ça n'est pas nécessaire.
Pour quelle raison, oui.
Mais bien parce que si je peux étudier la formation d'un tissu épithélial en utilisant la mouche drosophile ou des cellules en culture, la simplicité veut que j'utilise la mouche drosophile. Je vais utiliser telle espèce quand la question que je pose l'impose. Donc il faut comprendre que le point de départ est toujours la question scientifique.
Brigitte Rowe.
Oui, je voulais justement aussi réagir par rapport à un modèle unique qui se rapprocherait le plus possible de l'homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que on apprend de nos similitudes avec certains animaux, mais également de nos différences. C'est ça qui est important. Je prends l'exemple justement de certains animaux comme le poisson zèbre qui régénère. Je veux dire, vous lui coupez un morceau de nageoire caudale ou même une portion de cœur, il va régénérer. Ce que chez l'homme, bien entendu, nous ne pouvons pas faire. Et donc c'est une source de connaissances, de comprendre pourquoi cet animal-là peut régénérer et pas l'homme. Et ça ouvre des perspectives de traitement, d'application aussi extrêmement intéressantes, justement dans le cadre de, par exemple, de greffe cutanée suite à des amputations de membres ou autres chez l'homme. Donc c'est vrai qu'on a des perspectives très intéressantes et on apprend des différences aussi. Et c'est pour ça que je crois qu'on peut pas rester sur un modèle en fait unique.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui la question « Faut-il poursuivre les expériences sur les animaux ?» avec nos invités Thierry Galli, directeur de recherche à l'INSERM, Audrey Jougla, journaliste et auteur de Profession animale de laboratoire, André Ménage, vétérinaire et zoologiste, directeur de l'association Antidote Europe, et Brigitte Rau, vétérinaire responsable du bureau de l'expérimentation animale de l'INSERM. Alors là, on sent qu'il y a quand même deux problématiques un peu différentes. Soit on essaie de comprendre les mécanismes du vivant, comme vous l'avez bien expliqué, soit on essaie de soigner l'homme. Alors, c'est quand même deux objectifs un peu distincts. Alors, vous avez l'air de pas être tout à fait d'accord, Thierry Galli, mais alors, André Ménage, est-ce que...
Je pense que ça sera utile de faire la différence entre la réglementation, les exigences des autorités de réglementation pour tester, par exemple, les médicaments, si c'est produits chimiques, médicaments, etc., et la recherche fondamentale. Donc, si nous parlons de tester des médicaments, cela se base au fait... sur une réglementation qui date de 70 ans, à peu près d'après la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, ça semblait tout à fait logique de tester des produits chez les animaux avant de passer chez l'homme. Entre-temps, la science a avancé de 70 ans. Nous avons des connaissances aujourd'hui, la technologie comme la médecine personnalisée, par exemple. Et donc, nous avons une situation aberrante où nous sommes toujours bloqués par ces exigences qui datent de 70 ans, qui disent toujours, vous devez tester sur un rongeur, normalement le rat, et un non-rongeur, chien ou singe, avant de passer chez l'homme. Donc ça, c'est en ce qui concerne les tests par rapport à la réglementation. Et de l'autre côté, il y a la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est vous tirez une flèche dans le ciel et vous voyez où cette flèche va aboutir.
Très bien. Audrey Jougla, vous avez une idée, vous, de la différence justement d'utilisation des animaux dans ces deux grandes catégories ou est-ce
oui,
que c'est
alors, compliqué? Il y a les objets des expériences, tout ça, c'est les seuls chiffres qu'on ait, c'est ceux de la Commission européenne, qui dit donc que c'est à peu près 46% pour la recherche fondamentale, 10% en toxicologie, par exemple. Mais c'est vrai que, par exemple, quelque chose que moi je ne savais pas, enfin en tout cas j'avais pas fait le lien, c'était tout ce qui concerne l'économie pharmaceutique, c'est-à-dire les recherches qui sont faites dans un but non pas philanthropique pour améliorer la santé et pour le mieux-être en fait de l'humanité, mais qui sont vraiment des recherches dans un but commercial, c'est-à-dire émettre toujours plus de médicaments sur le marché, notamment pour compenser les pertes liées à ceux qui passent dans le domaine public. Et finalement on se retrouve à faire le lien entre un sujet qu'on pensait complètement philanthropique, c'est-à-dire la santé soignée, comme vous le disiez tout à l'heure, et des objectifs qui sont purement mercantiles, qui sont ceux des laboratoires pharmaceutiques. Et encore une fois, la surmédicalisation, enfin émettre tout le temps plus de médicaments qui n'ont pas forcément pour but de soigner, mais qui ont quand même des visées commerciales.
Et tout ça est lié au préalable.
Est lié évidemment, puisque tout ça commandite en fait des expériences, parce qu'encore une fois, c'est une obligation légale. Et c'est ce que disent les laboratoires pour se défendre de ça. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le lien entre l'objectif commercial qu'il y a et la souffrance des animaux.
Thierry Galli.
Oui, deux points. Le premier, c'est cette référence à ce qui s'est passé il y a 70 ans et la mise en place de la réglementation. Elle est due, il faut pas oublier cet élément de contexte, à ce que certains ont fait comme acte de barbarie, n'est-ce pas, pendant la période nazie, et en utilisant des humains directement pour faire de l'expérimentation. Donc cette réglementation, il faut pas la fustiger de cette manière, parce que elle est née...
Vous voulez dire qu'à l'époque, c'était un progrès.
Elle est née, effectivement, d'un progrès important, et on ne peut pas la balayer comme ça. il faut mûrement réfléchir.
Au bout de 70 ans, elle peut être revisitée.
Absolument. Mais il ne faut pas oublier pourquoi elle a été mise en place.
Audrey Jouglin.
C'est un point essentiel que vous soulevez là. C'est vrai que le lien en fait, entre notamment ce qui a été fait par les nazis, qui est lié aussi à mon histoire personnelle, et l'expérimentation animale est quelque chose qui a tout à fait qui n'est pas forcément soulevé et qui est lié aussi un peu au tabou de cette question-là. On n'aime pas trop se rappeler des mauvais souvenirs, mais finalement c'est la question du cobaye, c'est-à-dire on juge autrui suffisamment inférieur à soi. Donc à l'époque c'était les juifs, là c'est en l'occurrence les animaux, c'est-à-dire qu'on fonde un critère qui va justifier l'infériorité pour instrumentaliser en tant que cobaye autrui et en tirer un bénéfice, un profit pour la communauté de celui qui expérimente. Il y a toujours cette logique-là en fait dans l'histoire de l'expérimentation médicale et c'est la même logique qui est à l'œuvre en fait dans l'expérimentation animale. Et c'est pour ça que c'est une pratique qui est en soi immorale. Après, on la justifie en disant que c'est nécessaire pour ceux qui expérimentent, mais ça n'est que de la justification d'un mal qui est reconnu comme tel en fait pour cette raison-là.
Alors cette justification, elle est liée quand même à l'efficacité de ce modèle animal. On va faire peut-être abstraction de la recherche fondamentale qui cherche à comprendre le vivant, parce que là on voit mal comment on peut travailler sur un poisson particulier sans utiliser ce poisson. Ça, ça paraît quand même assez difficile, mais dans ce cas-là, je pense que peut-être aussi ce ne sont pas des milliers de poissons de ce type qui sont utilisés et détruits d'une certaine façon pour pouvoir aboutir au résultat. Il y a tout le reste, c'est-à-dire toute cette expérimentation pour les nouveaux médicaments, pour les nouvelles pratiques médicales, pour la compréhension de maladies du cerveau et autres, où là, on utilise encore largement le modèle animal. La question de sa validité, est-ce qu'elle se pose parmi vous? Est-ce que les solutions de remplacement qui commencent à exister vous paraissent avoir une perspective, Brigitte Roux? Par exemple, quelles sont ces techniques de remplacement?
Oui, alors remplacement, je pense que le remplacement de l'animal fait partie d'une chaîne complète. Le remplacer complètement, on ne peut pas remplacer un organisme entier, c'est pas possible. Maintenant, en fonction de la thématique, de ce que l'on veut, de l'objectif de la recherche, on peut s'affranchir, et c'est ce qui a été largement développé, on peut s'affranchir de l'animal entier. Mais il ne faut pas non plus oublier, quand on travaille même sur des cellules d'origine animale, elles proviennent bien d'un animal.
Qui peut être mort auparavant ou pas?
Ben, s'il est mort, c'est qu'à un moment donné, il a été vivant aussi.
Non, mais je veux dire, il n'est pas mort forcément dans un laboratoire. Il a pu mourir d'une mort plus naturelle.
Alors après, on a aussi des problèmes scientifiques, je dirais, à savoir que on doit standardiser aussi, quand on parle de fiabilité du modèle, on doit avoir un certain nombre de critères qui sont standardisés. Je parle par exemple de critères sanitaires, notamment de critères génétiques. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser un animal. Le mythe de capturer des animaux sauvages, errants et qui iraient dans des laboratoires, d'un point de vue scientifique, n'a absolument pas de raison d'être. Je dirais complètement absurde. Bien entendu, d'un point de vue éthique également, mais scientifiquement parlant, ça ne tient pas la route.
Thierry Galli.
Oui, je crois qu'il faut aussi évacuer cette idée ou cette notion qu'il y aurait des méthodes alternatives qui soient nouvelles. En fait, il n'y a absolument aucune nouveauté là-dedans. C'est depuis les débuts de la biologie, on ne fait pas que des observations sur un animal vivant. On fait des observations aussi sur des feuilles mortes et sur des fossiles et sur des choses qui ont été vivants et qui ne le sont plus. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans la recherche à l'heure actuelle, je ne connais pas d'équipe qui travaille avec des animaux qui, en même temps, ne travaille pas sur des protéines, sur des cellules, sur des tissus.
Non, mais qu'il faut bien comprendre, c'est que la question, c'est le remplacement, c'est pas la simultanéité. On comprend que les deux différentes voies sont exploitées,
mais par les mêmes chercheurs. C'est-à-dire que ce continuum est extrêmement important.
Mais la question, est-ce qu'ils pourront à terme, d'ici quelques temps, se passer de l'animal en utilisant plus que les autres techniques. Donc vous allez peut-être me citer un ou deux exemples.
Moi, je vais vous l'illustrer par ce qui me semble être une forme de démonstration par l'absurde. Pour travailler dans le champ du développement du cerveau, il est absolument évident que je serai le premier à être extrêmement intéressé, à être capable de reconstituer au laboratoire, sans animal, un cerveau avec les connexions et les différentes structures. Et à l'heure actuelle, on en est loin, mais un jour, cela peut-être se fera. À ce moment-là, se posera immédiatement la question de ce cerveau synthétique est-il ou pas conscient ? Vous voyez que déjà à l'heure actuelle, la question est posée pour les programmes informatiques, c'est-à-dire que...
Pour les robots, c'est ça que vous
voulez
dire.
Pour les robots. Et donc, le jour où on a vraiment la capacité, les connaissances de faire une vraie reconstitution à l'identique, entre guillemets, se posera la même question éthique que quand on utilise un animal. Donc, on voit bien qu'il y a une forme d'absurdité.
Audrey Jougla, oui, vous voulez intervenir.
Juste sur le cerveau, il y a un micro-cerveau, enfin, je pense que vous le saviez, qui a été reconstitué par l'Université de l'Ohio en août 2015. Et du coup, les chercheurs s'en félicitaient, non pas pour les animaux, mais parce qu'ils mettaient en avant le fait que c'était une reconstitution d'un cerveau humain et non pas d'un cerveau animal. Donc du coup, il y a quand même du progrès. Enfin, quand vous dites qu'il n'y a pas de nouveautés, etc.,
il y a
des progrès qui sont faits dans les micro-organes, les organes sur puce ou ce genre de choses.
Voilà, et puis
il y a un
projet européen, le Human Brain Project, a cet objectif de rassembler toutes les recherches et d'essayer d'avoir un modèle du cerveau humain. André Ménage.
Je reviens sur le sujet du remplacement. En tant que membre de plusieurs comités d'éthique, je peux vous dire que le remplacement est quasi absent dans le cadre de la recherche fondamentale. Puisqu'un chercheur va dire « je veux étudier le système immunitaire du rat », je ne peux pas le faire utilisant des cellules humaines en culture, évidemment, parce qu'il veut étudier, ou elle veut étudier, le système immunitaire du rat. On ne peut pas, il n'y a pas de possibilité dans le cadre des 3R et des comités d'éthique de mettre en question ou mettre en cause la validité du modèle animal. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré durant la participation dans ces comités d'éthique.
Alors les 3R, il faut peut-être en dire un mot, c'est le cas de le dire, ou 3, ce sont la règle des 3R, c'est réduire, raffiner et remplacer. C'est quand même justement le 3e R, c'est bien remplacer. Donc c'est quand même des objectifs fixés par, entre autres, la Commission européenne, Brigitte Roux.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand on parle d'expérimentation animale, on a envie de ne plus recourir à cet animal. Dans les 3 R, vous l'avez dit, il y a 2 autres R qui sont fondamentaux, qui sont essentiels, qui sont la réduction des contraintes qu'on peut imposer à l'animal. Donc cette démarche éthique qu'il est indispensable de mettre en œuvre. Donc et le raffinement. Hein, c'est le raffinement et la réduction également des animaux qui sont utilisés.
Le raffinement, c'est pas le plus simple à comprendre. Hein.
Le raffinement, c'est
un peu ambigu comme terme.
Raffiner, c'est limiter les contraintes, parce que bien entendu on impose des contraintes aux animaux, les limiter et essayer de se focaliser sur les contraintes qui vont être nécessaires et les plus faibles possibles.
Audrey Jougla, dans les laboratoires que vous avez visités, est-ce que vous avez perçu ce sentiment d'aller dans cette évolution, c'est-à-dire de réduire le nombre de contraintes imposées aux animaux, etc.?
Oui, alors le seul problème, c'est que bon, là, on parle de contraintes, c'est des termes qui sont très lisses en fait par rapport au niveau de souffrance des animaux. Déjà, et simplement, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais simplement pour quand même parler de, enfin voilà, ce dont on est en train de parler. Il y a quand même des expériences sur les brûlures, sur la privation de sommeil, c'est-à-dire qu'on prive l'animal de sommeil jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, je vous laisse juger de la souffrance que ça induit. Il y a des expériences de dépression en psychiatrie, parce qu'on parle très peu de la recherche en psychiatrie, mais tout ce qui concerne l'anxiété aussi. Et puis, des maladies qui sont extrêmement lourdes, en fait. En soi, c'est des animaux qui sont malades, qui sont atteints de pathologies graves, très douloureuses. Je pense, par exemple, à la polyarthrite. C'est extrêmement lourd. Donc, on est face à des animaux qui sont en grande souffrance. Donc, c'est-à-dire que même avec la meilleure volonté volonté du monde, des chercheurs qui souhaitent effectivement respecter les 3R, où il y a un moment, il faut bien qu'ils travaillent avec des animaux qui sont malades, atteints de pathologies lourdes et qui fassent des expériences qui provoquent des douleurs, en fait. Je veux dire, on peut avoir toute la législation du monde, il y a un moment, quand on travaille sur des maladies qui sont aussi douloureuses ou les expériences que je vous ai citées de privation de sommeil, là, ça ne veut plus rien dire, le respecter le bien-être animal.
Brigitte Roux.
Oui, alors là-dessus, je voudrais rebondir pour dire que on a justement mis en place des systèmes de points limites. Donc ça, vous avez dû en entendre parler. Et entraîner des animaux en privation de sommeil jusqu'à ce que mort s'en suive, ça, ce sont des pratiques qui doivent être argumentées et qui, généralement, du coup, ne passent pas, ne sont pas acceptées, ne sont pas tolérées parce qu'il y a un filtre au niveau des comités d'éthique qui examinent les projets. Donc, justement, tout est mis en œuvre, la démarche qui est initiée.
En théorie ou en pratique, là, vous
parlez? Ah non, en pratique. En pratique. Et par rapport à ça, justement, la difficulté de savoir où on va placer le curseur, où on va placer le point limite. Donc, il est demandé de placer le point limite de manière le plus précoce possible. Et ça questionne également sur l'évaluation du coup de la douleur. Quand vous parlez de grande douleur ou grande souffrance, c'est comment évaluer cette douleur. Et alors, comment l'évaluer? Déjà, je crois que la première chose, c'est de ne pas forcément interpréter. Parfois, on interprète mal les choses. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Une tarsographie, en fait, là, on a un vétérinaire aussi parmi nous. Une tarsographie, ce que l'on peut considérer que c'est un acte cruel, par exemple.
Déjà, vous pourriez nous expliquer ce que c'est, peut-être.
Tarsographie, c'est une suture au niveau de la paupière, par exemple. D'accord? Donc, si vous montrez une image d'un animal qui a un œil suturé, ça peut effectivement extrêmement choquer les personnes non initiées. Il faut savoir, par exemple, que ce type de technique est une technique classique en médecine, chirurgie, vétérinaire, et qu'en fait, elle est mise en place pour limiter la douleur de certains animaux suite à un ulcère ou une lésion de l'œil. Donc en fait, vous voyez, une image qui peut être assez forte et qu'on peut considérer être une situation de souffrance pour un animal, en fait, c'est une situation plutôt thérapeutique qui va le soulager.
Juste un mot d'André Ménage en tant que vétérinaire, donc il est directement concerné.
Alors justement, l'application des 3R, je ne sais pas si ça se passe tellement bien. Par exemple, je vais citer Dr Galli dans la revue Médecine Science, et je le cite, la recherche européenne impose déjà la nécessité absolue de limiter l'utilisation d'animaux, particulièrement des mammifères et plus encore des primates. Alors je vous donne un petit exemple de recherche fondamentale utilisant justement les primates. Et donc ce sont des collègues à l'INSERM de Dr Galli, quelque chose de publié en 2016, donc c'est dans l'actualité, qui utilise 23 primates. Le titre de cette étude: une baisse de poids corporel chez les primates diminue leur performance cognitive. Alors je ne sais pas si le contribuable sera d'accord que son argent soit dépensé pour ce genre de recherche. Deuxième exemple, en 2013, publié en 2013, 31 primates, l'intitulé « La privation du sommeil diminue la capacité de mémorisation, mais pas l'apprentissage ». Et troisième petit exemple, publié en 2014, 6 primates sacrifié, pour publier une étude intitulée « Lien entre l'hypothermie et les réserves de graisse du corps et du foie chez le microcèbe ».
Thierry Galli.
Oui, donc je ne connais pas ces travaux en détail, donc je veux...
Vous les avez signés, semble-t-il.
Non, je n'ai pas cité...
C'est le collègue.
Particulièrement, donc je ne peux pas me prononcer sans les avoir regardés de près. Mais... le problème, c'est quand on essaye de cette manière-là de questionner ou de jeter l'opprobre sur des travaux scientifiques sans aller au fond de la question, évidemment, on peut tout contester. Mais on a besoin, effectivement, j'imagine, dans le domaine de l'obésité, de savoir quel est l'impact de l'obésité. Et je pense que les personnes qui nous écoutent sont à même de comprendre qu'effectivement, savoir si l'obésité peut avoir ou pas un effet sur les fonctions cognitives, c'est pas innocent. J'imagine que dans le monde de l'enseignement, de l'éducation, les professeurs ont besoin de savoir s'il n'y a pas peut-être une raison physique à ce que certains de leurs élèves en classe aient des difficultés, etc.
Je coupe,
donc le questionnement
c'est quand
scientifique,
même une étude. Oui, non, mais c'est,
ça se pose sur un questionnement scientifique et je pense qu'on ne peut pas comme ça remettre en cause ce questionnement scientifique.
Alors selon le docteur Galli, les microcèbes peuvent prédire.
Vous pouvez nous dire ce que c'est?
Le microcèbe, c'est un petit primate lémurien d'origine de Madagascar. Et donc, selon le docteur Galli, selon ce que j'ai compris, on peut utiliser ces petits primates pour prédire l'effet de l'obésité chez l'homme. D'ailleurs, je ne connais aucune espèce animale
c'est tout à fait possible.
Qui réagit comme un humain.
Oui, en même temps, on se dit que l'obésité n'est pas une maladie à expérimenter d'une façon forcément en y recours au modèle animal. On peut imaginer que ces études pourraient être menées directement sur l'homme. C'est là qu'on comprend pas bien. Des personnes obèses existent, mesurer la relation avec...
Mais ça n'est pas contradictoire. Simplement, il faut réaliser que chez l'homme, ce type d'étude est plus compliqué parce que vous allez avoir une diversité génétique, il va falloir faire ce qu'on appelle les cohortes, il va falloir caractériser les cohortes. Très certainement, il va falloir faire un nombre d'individus qui est très largement supérieur. Vous allez vous retrouver face à des gens qui ont une histoire, qui vont avoir des âges différents. Et donc, l'analyse statistique n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut faire avec un nombre beaucoup plus restreint d'animaux chez lesquels on peut avoir une caractérisation précise du début pendant que l'obésité est induite, tout le long, avec une mesure de paramètres biologiques, c'est une démarche scientifique.
Oui, mais
le
cette problème, standardisation des paramètres dont vous avez l'air de parler, est-ce qu'elle représente la diversité? Est-ce qu'elle est applicable? Est-ce qu'elle a un sens une fois qu'on l'applique à une population humaine qui, elle, est complètement, justement, comme vous l'avez décrite, c'est-à-dire pas du tout standardisée?
On revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la confusion basique entre nécessaire et suffisant. C'est-à-dire que ce type d'étude n'est pas suffisant pour conclure, mais nécessaire.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Faut-il poursuivre les expériences sur les animaux ?» avec Thierry Galli, directeur de recherche à l'INSERM, Audrey Jougla, journaliste, André Ménache, directeur de l'association Antidote Europe, et Brigitte Rau, vétérinaire responsable du bureau de l'expérimentation animale de l'INSERM. Audrey Jougla, on voit bien que là, il y a un problème, effectivement, qui est compliqué au sens de... c'est nécessaire, mais pas suffisant. Donc, est-ce que cette nécessité, vous l'avez... comment vous l'avez perçue dans les laboratoires? Comment les chercheurs vivent avec ces animaux? Vous décrivez des scènes où, par exemple, un singe se rebelle en projetant un objet sur...
Sur un animalier.
Donc on sent quand même qu'il y a forcément il y a des tensions qui vont se créer entre ces deux, entre la population des chercheurs
c'est,
et celle
c'est très
animaux.
Violent, enfin c'est très violent et encore une fois je fais toujours attention à pas faire d'amalgame et à ne pas être dans un discours militant, mais il faut bien se rendre compte que bon voilà, quand on parle de tests sur les animaux, c'est un euphémisme, et les primates, enfin les singes dont on parlait à l'instant, il faut qu'on s'imagine que c'est des singes, par exemple les macaques rhésus, qui vont vivre, par exemple, 10 à 12 ans dans une petite cage. Donc, ils sont dans des cages où ils n'ont pas de liberté de mouvement. Ils sont en prison. Enfin, c'est vraiment...
Ils sont dans des volières.
Ouais. Non, ceux que j'ai vus n'étaient pas dans des volières, ils étaient dans des petites cages individuelles.
Uniquement pendant les expérimentations.
Vous assure que ceux que j'ai vus, ça ne se passait pas comme ça. Ils ne sortaient que pour les expériences. Ils refusent de sortir, donc ils s'accrochent au barreau. On vient les chercher avec une perche au niveau du cou. Et ensuite, on les met donc dans des chaises de contention, donc cheville, poignet, cou bloqué. On m'opposera que ça fait pas forcément mal d'être dans une chaise de contention, même si visuellement c'est impactant, mais il faut savoir que des expériences que les animaux n'ont pas envie de faire, très clairement, et on comprend très bien pourquoi. Donc effectivement, ça crée des relations qui sont c'est un univers qui est carcéral. Faut bien prendre la mesure de tout ça et de ce que c'est pour un singe de vivre 10 ans dans une cage.
Brigitte Rau.
Alors par rapport à justement cette notion d'emprisonnement, Deux choses, c'est-à-dire que on a justement des centres, hein, plusieurs centres qui travaillent sur le primate développent ce que vient de dire Thierry Galli, des volières. Vous pouvez d'ailleurs même, il y a un site qui a une visite virtuelle d'une animalerie primate qui vous le montre. Moi j'y suis allée. Je veux dire les primates ont des bambous, ont des petites piscines. Donc il y a quand même cette liberté, de mouvement qui est proposée et qui en plus pour les études nécessaires, puisqu'en fait il faut que ces primates puissent exprimer leur comportement naturel. Après la deuxième chose, c'est que il a été, justement, ce qui concerne les primates, il est demandé d'utiliser des primates, c'est la réglementation qui l'impose, d'utiliser des primates qui sont nés en captivité. Justement parce que on souffre d'autant plus d'une liberté qu'on n'a plus et qu'on n'a pas connue. Alors effectivement, c'est
qu'on
vrai
a connu, qu'on a connu.
Oui, qu'on a connu, pardon. Et donc effectivement, c'est la solution, je dirais, qui a été proposée pour justement limiter cette souffrance liée à un enfermement.
Enfin, l'instinct est quand même l'instinct du primate, oui. Qu'il ait connu ou pas la liberté. Enfin, je veux dire, le fait qu'il y ait des élevages spécialisés pour les animaux de laboratoire, ça, et qu'ils soient créés pour ça, c'est pas une justification morale. Enfin, on peut pas raisonner comme
André
ça.
André Ménage.
Je pense qu'il faut aussi demander au grand public ce qu'il pense de tout cela, puisque c'est le contribuable qui subventionne la plupart de ce genre de recherche. Et selon le plus grand sondage de son genre, subventionné par la Commission européenne, 68% des citoyens de l'Union européenne sont opposés à l'utilisation d'animaux pour la recherche fondamentale, toutes les espèces, donc pas uniquement les chiens et les primates, mais toutes espèces confondues.
Vous savez que quand on cite un sondage, il y a tous les paramètres du sondage, comment est-ce qu'il a été réalisé, etc.
Il est cité dans votre dossier de l'INSERM, ce sondage, si j'ai bonne mémoire. En introduction,
c'est intéressant de vérifier, mais
en 2010, mais sur normalement un sondage Eurobaromètre, 66% des Européens interrogés approuvent l'expérimentation animale sur les souris, alors qu'ils ne sont que 44% à l'accepter pour les chiens et les singes.
C'est un autre sondage.
C'est un peu différent du
vote. Ce qui est totalement différent de ce qui vient d'être cité. Monsieur Ménage ne cite pas ses sources, donc on ne peut pas considérer ça comme valable.
D'accord, enfin s'ils sont 44% acceptés sur...
Alors si on veut parler de ce qui est valable, on veut parler de ce qui est valable, 80% de la recherche fondamentale utilisant les animaux n'est pas reproductible. Je répète, n'est pas reproductible, pas selon moi.
Quelles sont vos sources?
Des chercheurs comme le groupe de Malcolm McLeod en Angleterre, etc. Donc les groupes justement qui font de la recherche animale, et qui essaye avec des lignes directrices comme Arrive Guidelines et Comrades, que vous devez certainement connaître, ils essayent d'encourager les chercheurs à améliorer les résultats de leur recherche animale. Mais actuellement, 80%, et c'est ce que me l'a dit un professeur de l'université en Belgique, je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il veut que je le cite, mais là, si vous n'êtes pas au courant, je serais très surpris.
Thierry Galli. Faut citer ses sources, donc sans citer ses sources, on ne peut pas approuver.
On va pas rester sur ce point-là. La question de fond, c'est quand même, est-ce que finalement la recherche animale, sur l'expérimentation animale, apporte des résultats dont on ne peut pas se passer, et qui justifie ce que Audrey Jougla nous a dépeint tout à l'heure, quand même, qui est une souffrance indéniable.
Oui, alors... Je pense qu'on va pas s'aventurer dans une liste exhaustive. Tout à l'heure,
quelques
exemples. Mais moi, je voudrais simplement rester aux dernières choses qui sont en train d'émerger et qui vont me permettre de faire le lien avec un autre point qui a été abordé, qui concernait le coût. Vous savez que ces derniers jours, il y avait un grand congrès international sur le cancer aux États-Unis et qui a mis en lumière que la révolution dite des immunothérapies, c'est-à-dire d'utiliser notre propre système immunitaire pour combattre les tumeurs, est en train de démontrer que c'est une piste qui est extraordinairement efficace. Et c'est le résultat de quoi ? C'est le résultat de très nombreuses années, plusieurs décennies, de travail des immunologistes à l'échelle de la cellule et à l'échelle de l'organisme chez l'animal, maintenant avec des essais cliniques chez l'homme, qui montrent que ça fonctionne. Évidemment, tout ne fonctionne pas. Tous les anticorps monoclonaux, par exemple, qui peuvent être imaginés à un moment donné, évalués dans des modèles cellulaires puis chez l'animal ne débouche pas chez l'homme, mais ce congrès a montré des résultats extraordinaires pour plusieurs types de cancers. Donc c'est juste un exemple tout à fait indéniable.
Audrey Jouglin.
Très souvent, on se focalise en fait sur, comme vous le faites, sur des espoirs en fait pour l'humanité, etc. Et moi, ce qui m'a
c'est plus que des espoirs ici. Hein.
Oui, non, mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas résumer voilà toute l'expérimentation animale à ça. Faut pas oublier qu'il y a quand même des essais qui sont faits en toxicologie, comme je le disais tout à l'heure, je parlais notamment des brûlures, mais sur la peau, sur les yeux des animaux. Là, on n'est plus du tout dans la recherche sur le cancer, par exemple. On en est très éloigné. Il y a de la recherche notamment militaire, nucléaire, bactériologique et chimique qui est faite sur les animaux aussi. Je ne questionne pas la nécessité de l'armement NBC, mais ce que je veux dire, c'est l'éventail est énorme en fait. Et il y a beaucoup d'expériences qui sont redondantes. Il y en a beaucoup qui sont faites aussi parce qu'on a besoin de publier des articles. Il y a un besoin de publication qui est derrière. Et tout ça, enfin là, on est très éloigné de ce que vous avez cité. Ça n'est pas que ça en fait. Ça, c'est une partie de l'éventail. Et c'est vrai, enfin, faut tout dire. Et notamment,
oui, mais il faut faire attention ne pas faire d'amalgame. Parce que
non,
là, je vois beaucoup d'amalgames, de superpositions.
L'éventail des expériences qui sont faites sur les animaux est extrêmement vaste. Et on ne peut pas le résumer à uniquement la recherche et les espoirs qu'on peut avoir sur le cancer.
Oui, mais vous citez les brûlures comme étant quelque chose qui n'aurait pas d'intérêt. Quand on a des grands brûlés, on a aussi besoin d'avoir des approches thérapeutiques.
Brigitte Roux.
Et sur les brûlures, justement, je pense, parce que c'est des choses qui ont pu être très choquantes, hein. Des tests, je suppose que vous faites référence à des tests cutanés, oculaires, quand je vous entendais parler de ça. Et là, justement, moi, je sors, aujourd'hui, j'étais à un séminaire de Francopa, je ne sais pas si vous connaissez Francopa, voilà, qui en fait est une plateforme française pour la promotion des méthodes alternatives. Et donc, justement, ce genre de test n'est plus, c'était le test de Dresde, n'est plus utilisé. Il y a des méthodes justement alternatives qui ont été développées, qui sont validées en plus d'un point de vue réglementaire. Donc vous voyez qu'en fait on progresse. Donc c'est un point qui est important. Non seulement on progresse et surtout il y a vraiment dans le domaine de la recherche, il y a des réseaux qui se forment pour essayer de communiquer et d'échanger justement sur les méthodes qui peuvent être mises en place. Il y a énormément de réflexions, je vous dis, ne serait-ce que ce matin, j'étais encore dans ce genre d'assemblée.
André Ménage, comment vous voyez, puisque là on approche du terme de l'émission, l'avenir, c'est-à-dire l'évolution d'une réglementation qui semble-t-il quand même, malgré votre référence aux années d'il y a 70 ans, a quand même évolué ces derniers temps et dans le sens de donner à l'animal un statut meilleur que celui qu'il avait auparavant et peut-être aussi d'essayer de réduire ces expérimentations. Comment vous voyez les choses évoluer ?
Alors d'un côté, je pense qu'on ne peut pas arrêter le progrès scientifique et donc je suis très content de constater que, par exemple, l'industrie pharmaceutique va dans la voie de ce que l'on appelle la médecine personnalisée et donc s'éloigne de plus en plus de l'expérimentation animale. Par contre, je pense que ce qui va faire vraiment bouger les choses, c'est l'opinion publique. Et justement, grâce à des émissions comme la vôtre, où les gens, le grand public commence à entendre de plus en plus ce que c'est l'expérimentation animale, c'est l'opinion publique qui va changer les choses.
Sachant que l'opinion publique n'est pas très bien informée de ce qui se passe dans ces laboratoires, il faut quand même le reconnaître, à moins que vous me disiez le contraire, Brigitte Roux. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'enquête d'Audrey Jouglin. Il semblerait qu'il y ait un laboratoire de primatologie sous l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Ce n'est pas des endroits où les télévisions sont souvent accueillies.
Les télévisions aussi sont accueillies là, et la preuve, de toute façon, une personne comme Audrey Jouglin a pu visiter.
Oui, enfin, alors pas avec sa caméra peut-être, mais s'infiltrer dans ce milieu et non pas arriver en ayant vraiment une carte de journaliste à bandir. Audrey Jouglin, c'est ça?
Oui, ça a été assez long et compliqué. Je comprends en fait que ce soit des milieux fermés. Je le comprends tout à fait. Enfin, c'est quelque chose, et je comprends aussi. Enfin, tout à l'heure, vous citiez l'exemple de la paupière, enfin de l'image choquante, etc. Effectivement, il y a des images qui ne sont pas des images de souffrance, mais qui sont choquantes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien dire aux associations parce que ça les discrédite aussi complètement. Donc, il faut arriver à faire la part des choses. choses et c'est compliqué. Mais en revanche, moi, je suis contre l'euphémisation de tout ce qui est les expériences sur les animaux. Enfin, quand c'est cruel, violent et douloureux, faut le dire. Il faut pas utiliser des termes comme test ou contrainte, parce que ça n'est pas le reflet de la réalité. Et je pense que c'est une honnêteté qu'il faut avoir des deux côtés, en fait.
Brigitte.
Oui, bah, tout à fait d'accord. Je veux dire qu'il n'est pas admissible de faire souffrir un animal, mais comme je vous le disais, après, la difficulté est d'évaluer aussi, de savoir ce qu'est la souffrance chez l'animal.
Quand on
et
voit
la douleur.
qu'on a déjà eu beaucoup de mal à l'évaluer chez l'homme.
Exactement.
Donc, a fortiori chez l'animal, peut-être.
Oui, mais on dispose justement d'outils. Ça fait partie justement des dispositions qui ont été demandées par les textes réglementaires. C'est de mettre en place des éléments de suivi des animaux, des indicateurs. Donc, en fait, on met en place maintenant dans les établissements des grilles, des scorings pour essayer d'évaluer l'état de bien-être de l'animal pour justement s'arrêter le plus précocement possible. On a des structures en charge du bien-être animal dans tous les établissements. Tous les projets sont reviewés par des comités d'éthique avant d'être mis en œuvre.
Et est-ce que les animaux ne pourraient pas avoir une certaine durée de service dans ce domaine et qu'ensuite, peut-être, ils aient une vie plus confortable? Est-ce que c'est envisageable, Thierry Gagné?
Ça existe, puisque un certain nombre d'animaux sont effectivement récupérés par des associations et ont une, entre guillemets, deuxième vie en dehors des laboratoires. Évidemment, il y a des conditions pour ça, parce qu'il faut qu'ils ne soient pas porteurs de maladies.
C'est 1% des animaux, c'est ceux qui n'ont pas subi des expériences, comme on dit, invasives. C'est-à-dire, c'est pas les grands brûlés dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, ou les grands malades.
Mais quoi. Ça prouve que le principe est là et qu'effectivement, cette réflexion a lieu et que ça va s'amplifier.
En même temps, ça veut dire quand même qu'il y a une nécessité pour les chercheurs de ne pas trop exposer ce genre de pratique. Et ça peut être gênant, même pour les chercheurs eux-mêmes, de devoir travailler un petit peu à l'abri des regards.
Moi, je dois dire que, par exemple, dans mon laboratoire, comme dans d'autres, nous accueillons régulièrement, pour les stages, les élèves de 3e, 2e, etc. Et on n'a jamais ce type de problème, et au contraire, on a plaisir à les voir prendre goût à la science. Je crois que le problème de fond, il est dans le manque de culture scientifique générale, chez les décideurs comme dans la population générale, et dans une forme de pessimisme ambiant qui voudrait que l'homme soit mauvais pour son environnement et ne soit capable que de le démolir. C'est une manière de voir les choses, mais on peut aussi le voir à l'opposé, en se disant qu'il y a les deux côtés de la pièce et qu'il n'y a pas que le côté pile ou que le côté face.
Audrey Jougla.
Moi, je voulais justement rebondir quand vous parliez de la supériorité de l'homme. Dans le fond, moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas si on est supérieur ou pas à l'animal. Enfin, je pense que personne ne l'a. C'est une question de conviction personnelle. Mais souvent, je fais cette réponse-là. Enfin, il y a deux possibilités. Soit l'homme est supérieur, soit il ne l'est pas. Alors, s'il n'est pas supérieur aux animaux, on est égal et à ce moment-là, on doit tous les respecter. Ça, on le comprend aisément. Et si l'homme est supérieur, je pense qu'il a un devoir envers les êtres les plus vulnérables. C'est comme ça que fonctionne la société, c'est-à-dire ils sont à notre merci. C'est pas parce qu'ils sont à notre merci qu'on a le droit de les exploiter et de les instrumentaliser, au même titre qu'on n'exploite pas les enfants ou les personnes âgées ou les déficients mentaux. C'est une règle en fait de vie en communauté et en société.
Brigitte Roux, pour conclure.
Moi, je crois que bon, on l'a vu. On a à l'heure actuelle l'impossibilité réelle de se passer de l'animal. Donc je crois qu'il faut, face à ce constat, mettre tout en œuvre pour que justement quand on a recours à cet animal, eh bien ça soit fait dans les meilleures conditions possibles et de limiter au maximum. Je crois qu'en fait il faut plus être dans l'opposition, parce que je crois que en fait la société l'a bien compris aussi, le grand public, les chercheurs également. Je crois qu'il faut être dans la construction justement et justement une construction et d'être dans une démarche positive qui va servir l'animal. Parce qu'en même temps aussi, tout ce qu'on a pu découvrir va aussi servir à l'animal. Il va en bénéficier.
Eh bien, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Thierry Galli, Audrey Jougla, André Ménage et Brigitte Roux d'avoir participé à cette émission. Sur notre site, vous trouverez les références du livre d'Audrey Jougla, Profession animale de laboratoire, publié en 2015 par les éditions Autrement. Vous trouverez également des liens avec le dossier Grand Angle de l'INSERM, publié en mars 2016. Ainsi qu'avec le document de la Commission européenne intitulé « Respecter les animaux pour la science de demain » et qui expose la directive de 2010. Toujours sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an et bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Science Publique. La semaine prochaine, vendredi 17 juin, Science Publique reviendra sur la question du nucléaire en France dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017. En 2012, François Hollande s'est engagé à fermer la centrale de Fessenheim et s'est fixé comme objectif de passer de 75% à 50% d'électricité d'origine nucléaire en 2025. Pourtant, il ne semble pas que la France soit décidée à s'engager dans la voie d'une sortie du nucléaire. Nous tenterons de comprendre pourquoi ce blocage persiste, alors même que le gouvernement s'engage dans une transition énergétique. Nous en débattrons avec nos invités, parmi lesquels Bernard Laponche, Jean-Jacques Delfour. Science Publique, Dany Journaud, Marie Jassorski, Marie Dalquier, Michel Albert-Gonty.